Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de Séquence Midi, votre émission d'actualité en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h. Avec vos découvertes musicales, votre agenda, votre rendez-vous cinéma du mercredi et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on revient sur la grève qui s'est passée vendredi dernier au service Soelifa de l'association Audacia. Et pour en parler, on accueille Léa Roux qui est salariée de Soelifa. Bonjour. Juliette Durousseau, qui est déléguée syndicale, bonjour.
Bonjour.
Et Charles-Henri Mauduit, qui représente le syndicat Sud Santé Socio 86, bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les trois d'être là. Vous étiez donc mobilisés vendredi dernier devant votre service. Quelles sont les principales raisons qui ont conduit à cette grève, qui est quand même un petit peu l'action ultime, on va dire?
Alors bah, peut-être pour faire un petit point historique sur, voilà, sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est là
Oui, aujourd'hui. D'ailleurs, vous faites bien, on vous avait accueilli il y a à peu près un an ou deux, enfin c'était pas vous, c'était vos représentants, pour un peu la fusion Audacia-Soelifa. C'est ça un petit peu le début de l'histoire, racontez-nous.
Voilà, donc en fait Soelifa à la base c'est l'association Soelifa, anciennement l'AFCCC Poitou-Charentes. Donc c'est une association qui a une cinquantaine d'années sur le territoire, qui est tournée essentiellement sur l'accompagnement des familles, des couples, des parents, des enfants. Et donc voilà, en fait, au cours de l'année 2022, on s'est retrouvé en fait avec un conseil d'administration qui était démissionnaire, parce que voilà, on avait un conseil d'administration qui était présent depuis longtemps, très militant, très engagé, mais du coup aussi vieillissant. Et donc, à un moment donné, on s'est retrouvé dans une situation où on allait finir par ne plus avoir de conseil d'administration et donc se poser la question d'un transfert de gestion vers une autre association pour poursuivre nos activités. Voilà. Donc à ce moment-là, il y a eu il y a eu une concertation qui a été organisée par le président de l'époque pour chercher un repreneur. Et c'est comme ça que Audacia est arrivé sur la table et que en décembre 2022, la reprise de notre association a été organisée. Voilà. Et donc en fait, on est passé de association Soelifa à service Soelifa, où donc on a été rattaché au pôle famille enfance de l'association Audacia.
Et ça représente combien de salariés, ça?
Alors ça en représente 15 ou 16 à peu près, voilà. Donc entre le point rencontre, qui à l'époque représentait 14 salariés, une secrétaire et ensuite une médiatrice familiale et une conseillère conjugale.
Donc vous avez été repris entre guillemets par Audacia. Il y avait dans les négociations de départ des choses qui concernaient vos contrats forcément, puisque vous n'aviez plus le même employeur. Et c'est là que ça bloque en fait. Racontez-nous.
Voilà, c'est ça. En fait, on nous a, faisait partie de la négociation. Les administrateurs de l'époque avaient axé, en fait, une des priorités sur le fait de pouvoir avoir des contrats, entérinant notre rattachement à Audacia. Voilà, sauf qu'en fait, au niveau RH, Soelifa, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est des contrats assez particuliers avec des temps de travail qui sont très petits. Et donc, en fait, c'était un peu compliqué en fait, pour Audacia de venir traduire ces contrats Soelifa dans des nouveaux contrats au vu de la convention collective qui a cours à Audacia. Donc en fait, le service RH de Audacia nous ont dit qu'ils allaient voir avec leurs avocats pour essayer de voir un peu comment ça allait pouvoir se passer. Enfin voilà. Et en fait, c'est là qu'on se retrouve 2 ans après, sans qu'on ait eu encore de réponse vraiment satisfaisante. Et sauf qu'en fait, la situation, elle est telle que, évidemment, en 2 ans, il y a pas mal de temps de travail qui ont pu bouger. Des gens qui ont pris des temps de travail en plus, en moins, et etc. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que le service paye, quand ils font tomber le salaire, se base sur le contrat de travail initial SOELIFA et pas sur les évolutions du temps de travail qui ont eu lieu depuis 2 ans. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec certaines collègues qui ont accumulé parfois jusqu'à 200 heures non payées parce que quelqu'un qui a pris par exemple 10 heures en plus par mois, ces 10 heures-là ne lui sont pas payées
et on
multiplie ça par le nombre de
vous,
mois.
Vous, Léa Roux et Juliette Durousseau, vous en êtes où par exemple de vos temps de travail personnels
Du coup, moi au sein de l'association, là je suis à 46 heures par mois. Et donc effectivement sur mon bulletin de salaire, initialement je suis à 22h50 et j'ai une base horaire qui a augmenté à 38h50. Comme ça, quoi, un peu du jour au lendemain, mais du coup qui ne correspond pas à la réalité.
Et donc vous n'êtes pas payée de ces heures supplémentaires, entre guillemets?
Je suis payée une partie, effectivement, mais pas la totalité.
Pas la totalité.
Alors moi, je ne suis pas salariée sur le service SOELIFA. Néanmoins, c'est vrai que ce que je déplore, c'est qu'il n'y a aucun avenant au contrat initial qui ont été faits. Et donc, forcément, ça pose de grosses difficultés aux collègues de SOELIFA.
Et quels sont... Alors, il y a déjà eu des discussions en interne. Hein, si vous arrivez à la grève, c'est que vous avez déjà essayé de mobiliser d'autres moyens de négociation, entre guillemets. Quelles sont les réponses d'Audacia?
Je pense que Charles-Henri l'a bien expliqué. Hein. On a une convention collective, donc convention collective CHRS, qui rend difficile en fait les contrats, enfin l'établissement de contrats par rapport à la spécificité du service SOELIFA. Mais c'est vrai que 2 ans d'attente pour ce type de contrat, c'est trop long et c'est inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle les collègues de SOELIFA se sont mis en grève pour aussi visibiliser leurs difficultés avec Audacia.
Et quels sont les impacts concrets que vous ressentez pour vous, vos collègues, au quotidien d'attendre depuis 2 ans?
Alors moi, je dirais dans un premier temps plutôt de l'agacement. Et là, pour le coup, en tout cas, je pense qu'il y a une grande partie de l'équipe qui reste dans l'agacement, où moi, je sens personnellement que je suis plutôt sur de la fatigue très importante de cette situation qui n'évolue pas et on n'a pas de réponse, en fait.
Le risque, c'est des démissions éventuellement, des arrêts maladie, même éventuellement d'épuisement.
Ouais. Alors, on y est déjà, parce qu'on a déjà eu plusieurs arrêts maladie sur le service. On a une collègue qui a fini par démissionner. Donc en fait, ça, à la fois, ça commence à impacter les collègues sur un plan vraiment de santé, c'est-à-dire que c'est la santé de certaines collègues qui est engagée dans ce processus-là. Et puis à l'autre bout, c'est la déstabilisation du service que ça impacte, et donc avec en dernier lieu une conséquence sur les familles accueillies, parce qu'un service qui ne peut plus tourner, c'est un service qui ne peut plus accompagner de familles. Or notre service, en tout cas sur le point rencontre, nous on est là pour réaliser des droits de visite parent-enfant dans un cadre judiciaire, donc sur ordonnance du juge aux affaires familiales. Donc on est là dans un objectif d'accès aux droits. Et donc si le service ne peut plus tourner, ça va être des justiciables qui auront leurs droits qui ne pourra pas être respectés ni mis en place. Donc ce sont des conséquences quand même assez importantes.
Et j'imagine que dans le service, ça doit créer aussi un petit peu ces tensions-là de se dire, mon contrat de travail, c'est ça, mais j'aimerais quand même accompagner les familles. Et c'est elles, les familles, qui en pâtissent au final.
Je dirais que jusque-là, je pense que notre éthique professionnelle fait qu'on tient pour les familles. Mais effectivement, je me dis jusqu'à où ça va tenir, quoi.
Alors, oui, je me permets aussi, moi je voulais souligner le courage en fait des collègues qui se sont mis en grève, parce que c'était une décision difficile à prendre pour eux. Néanmoins, pour que les choses s'améliorent et que justement les familles puissent faire valoir leurs droits, il était important aussi qu'ils puissent se mettre en grève la semaine dernière.
Alors, quelles sont maintenant les revendications concrètes que vous avez demandées à Audacia et qui doivent être réglées au plus vite?
Alors, y a cette question des avenants. Voilà, on demande un nouvel avenant pour chaque salarié du service. On demande également la régularisation de toutes les heures non payées, du coup, en heures complémentaires. C'est-à-dire que on n'acceptera pas d'antidater des contrats si on nous le propose. Donc toutes les heures qui ont été réalisées seront donc à payer en heures complémentaires. On demande également le versement de la prime Ségur. Alors ça dépasse le simple cadre du service Soelifa, parce que il y a beaucoup de collègues à Audacia qui sont impactés. Enfin voilà, ce qu'on appelle un peu les oubliés du Ségur, donc des professionnels.
Le Ségur, c'était une prime pour les soignants au départ, mais c'est vrai que ça a été un petit peu élargi, mais pas pour vous, a priori.
Voilà, c'est ça. Et en fait, normalement, on est censé la toucher depuis janvier 2024. Et donc là, voilà, ça fait un an qu'on attend le versement de cette prime. On nous dit à chaque fois que ça va arriver, mais pour le moment, ça n'arrive pas. Donc on l'a mis également au rang de nos revendications. Et puis après, on a également des revendications par rapport aux avenants qu'on est en train de nous proposer. En fait, on a découvert des clauses dans ces contrats qui nous paraissent difficilement acceptables. Donc la première clause, c'est une clause de confidentialité qui interdit en fait à tout salarié qui signe ce contrat-là de pouvoir, parler de toutes les affaires internes à Audacia pendant la période contractuelle, mais également une fois qu'on n'est plus salarié de Audacia, et ce sans limite de durée dans le temps. Donc nous, on l'interprète un peu, peut-être à tort, mais en tout cas nous on l'interprète un peu comme la signature d'une loi du silence, donc on n'est pas d'accord avec ça. En tant que professionnel du secteur social et médico-social, nous on est déjà assujettis à ce qu'on appelle le secret professionnel partagé, et en fait on se questionne sur pourquoi mettre des clauses supplémentaires, sachant qu'on n'est pas dans le domaine de la sûreté nucléaire ou du secret industriel. Donc voilà, ça nous semble un peu exagéré.
Si je peux me permettre de rebondir sur ce sujet, c'est une clause qui est assez récente, hein, puisqu'a priori, alors moi j'en avais pas connaissance, mais a priori c'est à partir de 2022, je pense, que ça a été mis en place. Et c'est vrai que ce qui est problématique, c'est que ça englobe aussi la situation d'Audacia, c'est-à-dire que sur le plan, j'ai envie de dire, des personnes accompagnées, des partenaires, etc., il paraît logique qu'on ne révèle pas de choses. Après, sur ce point-là, en fait, en tout cas, c'est questionnant et on n'avait pas connaissance de cela. Donc voilà.
Oui, donc même sur la situation du service en lui-même et à tout jamais.
Voilà, et en plus, c'est toute l'association. Hein. Moi, mon contrat, il n'y a pas ce point-là dans mon contrat initial.
Donc ça, c'est les principales revendications que vous soulignez. Il y a d'autres clauses qui étaient importantes ou
non? Il y a également là une clause de mobilité qui nous questionne un petit peu, qui fait en fait que les salariés pourraient comme ça, un peu du jour au lendemain, en tout cas c'est comme ça qu'on le lit, être mutés sur n'importe quel service de Audacia, sachant qu'Audacia est présent sur 4 départements. Donc ça veut dire que potentiellement, du jour au lendemain, on peut être amené à partir travailler en Charente. Voilà, donc ça nous questionne aussi un peu.
On peut comprendre. En tout cas, c'est ce que vous mettez sur la table aujourd'hui comme revendication principale. Vous étiez en grève vendredi dernier. On sait que la grève, effectivement, c'est perdre un jour de salaire. Donc c'est une action forte. Quelles sont les prochaines actions que vous envisagez si vous n'êtes pas entendu?
Ça, c'est encore en réflexion. Ça va être, je pense, mis sur la table lors de la prochaine réunion d'équipe, où on va devoir un petit peu déjà faire le point sur ce qui commence à bouger au niveau de la direction. On est également dans l'attente d'une réunion avec la direction, alors qui normalement avait été initialement organisée au mois de décembre, annulée 3 jours avant. Donc là, on est dans l'attente que la direction revienne vers nous et nous propose enfin cette réunion pour qu'on puisse se mettre autour de la table et puis avancer. Parce que nous, notre objectif, c'est quand même de pouvoir se remettre le plus rapidement possible au travail et de pouvoir continuer à accueillir les familles comme on le fait le reste du temps.
Peut-être que c'est important de préciser, du coup, effectivement, on était en grève vendredi, mais également samedi sur les temps de rencontre parents-enfants. Donc nous n'avons pas travaillé samedi.
Donc ça a aussi impacté donc, les, les familles, même le samedi. Merci en tout cas de le préciser. Merci d'être venu nous parler de vos difficultés. C'est vrai qu'on célébrait un petit peu avec vous le sauvetage entre guillemets de Soedifa il y a pas si longtemps. Et puis là, on se rend compte que voilà, ça n'a pas tout à fait avancé comme vous en aviez rêvé peut-être. On espère que vous aurez des réponses. Merci en tout cas d'être venu, Léa Roux, Juliette Durousseau et Charles-Henri Mauduit, donc représentant Soedifa et puis les syndicats Sud Santé Sociaux. Et puis bon courage pour la suite.
Merci beaucoup.
Merci.
On continue en musique avec l'artiste d'origine martiniquaise Elodie Rama. Elle vogue depuis de nombreuses années entre Marseille et Nantes. Artiste visuelle, animatrice radio, c'est avant tout une chanteuse qui a collaboré avec de nombreux artistes en France et à l'étranger. Elle a sorti son premier album, Constellation. Voici le titre, K.
Encore l'esprit embrumé par le rhum, autour de nous le tambour caressonne. Les salivés, la sueur se mêlent, les corps en transe danser s'en mêlent. Je danserai au sommet du volcan. Trésor, pharaons et reines de Saba. Dehors, la lune est pleine, la prophétie nous parvient déjà. Vibration des percussions stellaires, perdue dans la noirceur, la moiteur des nuits sans air. J'ai rêvé ma voix chantant ces mots inconnus, libérée d'un corps qui ne m'appartient pas, qui ne m'appartient plus. Je sens ton souffle dans mon cou, et parle-moi tout bas, un peu de ta bouche, je me noie dans tes bras. Seul, quand les tambours s'arrêtent, il est trop tard. Ton parfum, tes mains sont encore sur moi.
C'est que tomber là, l'amour en bas bois, un bel orage là, et tes autres qui battent.
Les cendres tombent du ciel, la nuit dénudée nous a surpris puis séparés. Le tambour caresse.
Demain, dans Séquence Midi, on parlera du plan mobilité de Grand Poitiers et on découvrira aussi un projet de local de rétention dans la Vienne. C'est la CIMAD qui viendra nous en parler. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre rendez-vous cinéma. Et c'est Erwan, service civique au cinéma Luditrich, qui est avec nous. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Et aujourd'hui, tu nous parles de la sortie de la semaine, Mémoire d'un escargot.
Oui, c'est ça tout à fait. Là, c'est Mémoire d'un escargot, du coup, cette semaine, cette sortie nationale. C'est même le coup de cœur du mois au Dietrich. C'est le nouveau film d'animation signé par l'Australien Adam Elliott. Comme si son dernier film Marie and Max, sorti il y a déjà 15 ans, ne nous avait pas assez déchiré le cœur en 27 morceaux, il revient nous faire pleurer à chaudes larmes avec une nouvelle histoire déchirante. Cette fois, c'est l'histoire de Grace Poodle, jeune fille solitaire, collectionneuse d'escargots et passionnée de lecture qui voit sa vie voler en éclats le jour de la mort de son père. Bon, vous comprenez déjà qu'on ne va pas sortir les confettis avec cette histoire. Mais donc je continue. Dans cette famille d'accueil, totalement indifférente à son sort, séparée de son frère jumeau, dont elle attend désespérément les lettres et malmenée par ses camarades, elle s'enfonce dans le désespoir. Bon, il faut déjà bien 5 minutes pour se remettre du synopsis, tellement il est assez difficile à mon goût, mais je vous laisse deviner combien de temps il vous faut pour vous remettre d'un film d'une heure et demie là-dessus. Bon, passé la petite blague sur le film triste, il faut admettre que le long métrage est un tour de force d'animation. La maîtrise d'Adam Elliott se sent à chaque plan, c'est de l'animation en stop motion, donc image par image, qui demande un temps monstrueux de préparation. En quelques mots, pour ce film, c'est une préparation d'un an pour concevoir 7000 accessoires et éléments de décor. C'est aussi 5 mois pour dessiner à la main 1600 vignettes de storyboard, donc des dessins qui vont permettre de visualiser à quoi va ressembler le film dans son rendu. Mais c'est aussi un tournage de 33 semaines, soit environ 8 mois, pour réaliser plus de 135 000 prises de vue. Mais tout cet effort n'a pas été vain puisque le film était nommé aux derniers Golden Globes et le sera sûrement aux Oscars le mois prochain, et il a aussi remporté en juin dernier le Cristal du long métrage, l'équivalent d'une récompense de meilleur film au Festival d'Annecy, soit la grand-messe du cinéma d'animation mondial. Bien sûr, toute cette reconnaissance est justifiée, techniquement tout autant que narrativement, car le film réussit son pari de traiter de sujets aussi complexes que l'abandon, la dépression ou même le deuil, en très peu de temps, une heure et demie, comme je vous le disais. Personnellement, je suis d'avis qu'on franchit un peu la ligne du pathos tire-larme à certains moments du film, mais cela dépend bien sûr de la sensibilité de chacun et de notre rapport unique au thème abordé. Ne l'oublions pas. Enfin, pour terminer sur le film, je trouve ça assez éclairant de citer le réalisateur lui-même qui a déclaré à propos de sa carrière et de ses œuvres que son but dans ses films est tout simple, faire rire les spectateurs, mais aussi les faire pleurer. Voilà, tout est dit. Mais rassurez-vous, nous ne passons pas qu'un seul film dans notre superbe monoplexe sans complexe. Cette semaine, ce sera aussi les dernières séances de Nosferatu, conte horrifique de Robert Eggers qui repartira se terrer en Transylvanie dès mardi prochain. Donc hâtez-vous si vous voulez découvrir ce très beau film de vampire. Mais ce sera aussi les dernières séances de Tout va bien, superbe film asiatique qui a eu une sortie assez discrète au début du mois de janvier. C'est une très jolie histoire sur fond de romance et de deuil qui viendra réchauffer votre cœur et je pense qu'on en a tous bien besoin en ce moment au vu des températures.
Merci beaucoup Erwan et on retrouve les conseils cinéma du Dietrich chaque semaine le mercredi dans Séquence Midi. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. On commence par les archives départementales. À 14h30, on vous propose une visite guidée de l'exposition Le Père Fleury, aumônier résistant juste, qui a vécu entre 1942 et 1982. Ça dure une heure et vous pourrez découvrir la vie de cet aumônier des Tziganes dans le camp d'internement de Poitiers, résistant à l'occupant allemand, sauveur de nombreux enfants et familles juives dans la Vienne. Le père Jean Fleury a marqué son époque. Donc c'est à 14h30 aux archives départementales, rue des Chambalets à Poitiers. Café menstruel, c'est à 18h30 à l'envers du bocal. Bienvenue au Café menstruel, un espace gratuit de rencontre entre personnes menstruées pour s'informer et échanger sur tout ce qui concerne votre vie cyclique. Phase du cycle, sang, puberté, ménopause, humeur, émotions, hormones, physiologie, douleurs, entrepreneuriat, etc. C'est gratuit, c'est sur inscription. Ciné-débat, transmettre des fermes et renouvellement des générations à 18h45. Le maintien d'une agriculture paysanne pour des campagnes vivantes passe indéniablement par des transmissions de fermes anticipées. Malgré le renouvellement d'ampleur qui s'annonce avec les politiques publiques, PAC, retraite agricole, soutien aux paysans en difficulté, ça favorise les agrandissements, la diminution du nombre de fermes et la disparition des paysannes et des paysans. Quels outils, quelles politiques, quels choix pour changer la donne? La Confédération paysanne vous invite à participer à une soirée ciné-débat sur le thème de la transmission des fermes. C'est donc à 18h45 à la salle des fêtes de Mirbeau. Royal Opéra Les Contes d'Hoffmann à 19h45 au cinéma Le Majestic à Montmorillon. À travers les brumes des années, un poète se souvient des femmes qu'il a aimées. Mais quand il s'agit d'amour, les apparences sont trompeuses, surtout lorsque le diable en personne est à l'œuvre. Le plein tarif est de 16€ et il y aura une boisson chaude offerte à l'entracte. Et enfin, Paul de Saint-Cernin en spectacle à 20h à l'espace République Corner. Paul de Saint-Cernin, c'est le sniper de l'émission Quelle époque ? Et l'entrée est à partir de 25€ et disponible sur le site République Corner. Sur Pulsar, retrouvez à 21h l'indépendance et à 23h Sonokino. Merci Yann pour la réalisation technique de cette émission. On se quitte avec Marlène Larsen, ce titre I Said I'm Fine, qui est issu de son premier EP Gaylor. Bonne écoute ! À demain.
I'm fine. outside.